de Fédor Dostoïevski, Les frères Karamazov. Préface. En abordant la biographie de mon héros, Alexeï Fiodorovitch, j'éprouve une certaine perplexité. En effet, bien que je l'appelle mon héros, je sais qu'il n'est pas un grand homme. Aussi prévois-je fatalement des questions de ce genre. En quoi Alexeï Fiodorovitch est-il remarquable pour avoir été choisi comme votre héros? Qu'a-t-il fait? De qui est-il connu et pourquoi? Ai-je une raison, moi, lecteur, de consacrer mon temps à étudier sa vie? La dernière question est la plus embarrassante, car je ne puis qu'y répondre « Peut-être, vous le verrez vous-même dans le roman. » Mais si on le lit sans trouver mon héros remarquable? Je dis cela, malheureusement, car je prévois la chose. À mes yeux, il est remarquable. Mais je doute fort de parvenir à convaincre le lecteur. Le fait est qu'il agit, assurément, mais d'une façon vague et obscure. D'ailleurs, il serait étrange, à notre époque, d'exiger des gens la clarté. Une chose, néanmoins, est hors de doute. C'est un homme étrange, voire un original. Mais loin de conférer un droit à l'attention, l'étrangeté et l'originalité nuisent, surtout quand tout le monde s'efforce de coordonner les individualités et de dégager un sens général de l'absurdité collective. L'original, dans la plupart des cas, c'est l'individu qui se met à part, n'est-il pas vrai? Au cas où quelqu'un me contredirait sur ce dernier point, disant « ce n'est pas vrai » ou « ce n'est pas toujours vrai », je reprends courage au sujet de la valeur de mon héros. Car non seulement l'original n'est pas toujours l'individu qui se met à part, mais il lui arrive de détenir la quintessence du patrimoine commun, alors que ses contemporains l'ont répudié pour un temps. D'ailleurs, au lieu de m'engager dans ces explications confuses et dénuées d'intérêt, j'aurais commencé tout simplement sans préface. Si mon œuvre plaît, on la lira. Mais le malheur est que, pour une biographie, j'ai deux romans. Le principal est le second. Il retrace l'activité de mon héros à l'époque présente. Le premier se déroule il y a 13 ans. À vrai dire, ce n'est qu'un moment de la première jeunesse du héros. Il est néanmoins indispensable, car sans lui, bien des choses resteraient incompréhensibles dans le second. Mais cela ne fait qu'accroître mon embarras. Si moi, biographe, je trouve qu'un roman eût suffi pour un héros aussi modeste, aussi vague, comment me présenter avec deux et justifier une telle prétention? Désespérant de résoudre ces questions, je les laisse en suspens. Naturellement, le lecteur perspicace a déjà deviné que tel était mon but dès le début. Et il m'en veut de perdre un temps précieux en paroles inutiles. À quoi je répondrai que je l'ai fait par politesse, et ensuite par ruse, afin qu'on soit prévenu. Au reste, je suis bien aise que mon roman se partage de lui-même en deux écrits, tout en conservant son unité intégrale. Après avoir pris connaissance du premier, le lecteur verra lui-même s'il vaut la peine d'aborder le second. Sans doute chacun est libre. On peut fermer le livre dès les premières pages du premier récit pour ne plus le rouvrir. Mais il y a des lecteurs délicats qui veulent aller jusqu'au bout pour ne pas faillir à l'impartialité. Tels sont, par exemple, tous les critiques russes. On se sent le cœur plus léger vis-à-vis d'eux. Malgré leur conscience méthodique, je leur fournis un argument des plus fondés pour abandonner le récit au premier épisode du roman. Voilà ma préface finie. Je conviens qu'elle est superflue, mais puisqu'elle est écrite, gardons-la. Et maintenant, commençons. L'auteur. Première partie, livre 1, Histoire d'une famille. Chapitre 1, Fiodor Pavlovitch Karamazov. Alexeï Fiodorovitch Karamazov était le troisième fils d'un propriétaire foncier de notre district, Fiodor Pavlovitch, dont la mort tragique, survenue il y a 13 ans, fit beaucoup de bruit en son temps et n'est point encore oubliée. J'en parlerai plus loin, et me bornerai pour l'instant à dire quelques mots de ce « propriétaire », comme on l'appelait, bien qu'il n'eût presque jamais habité sa « propriété ». Fiodor Pavlovitch était un de ces individus corrompus, en même temps qu'ineptes, type étrange mais assez fréquent, qui s'entendent uniquement à soigner leurs intérêts. Ce petit hobereau débuta avec presque rien et s'acquit promptement la réputation de pique-assiette. Mais à sa mort, il possédait quelque 100 000 roubles d'argent liquide. Cela ne l'empêchait pas d'être, sa vie durant, un des pires extravagants de notre district. Je dis extravagant et non point imbécile, car les gens de cette sorte sont pour la plupart intelligents et rusés. Il s'agit là d'une ineptie spécifique, nationale. Il fut marié 2 fois et eut 3 fils, l'aîné, Dmitri, du premier lit, et les 2 autres, Ivan et Alexeï, du second. Sa première femme appartenait à une famille noble, les Miusov, propriétaires assez riches du même district. Comment une jeune fille bien dotée, jolie, de plus, vive, éveillée, spirituelle, telle qu'on en trouve beaucoup parmi nos contemporaines, avait-elle pu épouser pareil et cervelé, comme on appelait ce triste personnage? Je crois inutile de l'expliquer trop longuement. J'ai connu une jeune personne, de l'avant-dernière génération romantique, qui, après plusieurs années d'un amour mystérieux pour un monsieur qu'elle pouvait épouser en tout repos, finit par se forger des obstacles insurmontables à cette union. Par une nuit d'orage, elle se précipita du haut d'une falaise dans une rivière rapide et profonde et périt victime de son imagination, uniquement pour ressembler à l'Ophélie de Shakespeare. Si cette falaise, qu'elle affectionnait particulièrement, eût été moins pittoresque ou remplacée par une rive plate et prosaïque, elle ne se serait sans doute point suicidée. Le fait est authentique, et je crois que les 2 ou 3 dernières générations russes ont connu bien des cas analogues. Pareillement, la décision que prit Adélaïde Miusov fut sans doute l'écho d'influences étrangères, l'exaspération d'une âme captive. Elle voulait peut-être affirmer son indépendance, protester contre les conventions sociales, contre le despotisme de sa famille. Son imagination complaisante lui dépeignit, pour un court moment, Fiodor Pavlovitch, malgré sa réputation de pique-assiette, comme un des personnages les plus hardis et les plus malicieux de cette époque en voie d'amélioration, alors qu'il était, en tout et pour tout, un méchant bouffon. Le piquant de l'aventure fut un enlèvement qui ravit Adélaïde Ivanovna. La situation de Fiodor Pavlovitch le disposait alors à de semblables coups de main. Brûlant de faire son chemin à tout prix, il trouva fort plaisant de s'insinuer dans une honnête famille et d'empocher une jolie dot. Quant à l'amour, il n'en était question ni d'un côté ni de l'autre, malgré la beauté de la jeune fille. Cet épisode fut probablement unique dans la vie de Fiodor Pavlovitch, toujours grand amateur du beau sexe, toujours prêt à s'accrocher à n'importe quelle jupe, pourvu qu'elle lui plût. Cette femme, en effet, n'exerça sur lui aucun attrait sensuel. Adélaïde Ivanovna eut au fait de constater qu'elle n'éprouvait que du mépris pour son mari. Dans ces conditions, les suites du mariage ne se firent pas attendre. Bien que la famille eût assez vite pris son parti de l'événement et remis sa dot à la fugitive, une existence désordonnée et des scènes continuelles commencèrent. On rapporte que la jeune femme se montra beaucoup plus noble et plus digne que Fiodor Pavlovitch, qui lui escamota dès l'abord, comme on l'apprit plus tard, tout son capital liquide, 25 000 roubles, dont elle n'entendit plus jamais parler. Pendant longtemps, il mit tout en œuvre pour que sa femme lui transmît, par un acte en bonne et due forme, un petit village et une assez belle maison de ville qui faisait partie de sa dot. Il y serait certainement parvenu, tant ses extorsions et ses demandes effrontées inspiraient de dégoût à la malheureuse, que la lassitude eût poussé à dire oui. Par bonheur, la famille intervint et refréna la rapacité du mari. Il est notoire que les époux en venaient fréquemment au coup, et on prétend que ce n'est pas Fiodor Pavlovitch qui les donnait, mais bien Adélaïde Ivanovna, femme emportée, hardie, brune irascible, douée d'une étonnante vigueur. Elle finit par s'enfuir avec un séminariste qui crevait de misère, laissant sur les bras à son mari un enfant de 3 ans, Mitya. Le mari s'empressa d'installer un harem dans sa maison et d'organiser des souleries. Entre-temps, il parcourait la province, se lamentant à tout venant de la désertion d'Adélaïde Ivanovna, avec des détails choquants sur sa vie conjugale. On aurait dit qu'il prenait plaisir à jouer devant tout le monde le rôle ridicule de mari trompé, à dépeindre son infortune en chargeant les couleurs. « On croirait que vous êtes monté en grade, Fiodor Pavlovitch, tant vous paraissez content malgré votre affliction, » lui disaient les railleurs. Beaucoup ajoutaient qu'il était heureux de se montrer dans sa nouvelle attitude de bouffon, et qu'à dessein, pour faire rire davantage, il feignait de ne pas remarquer sa situation comique. Qui sait, d'ailleurs, peut-être était-ce de sa part naïveté. Enfin, il réussit à découvrir les traces de la fugitive. La malheureuse se trouvait à Pétersbourg, où elle avait achevé de s'émanciper. Fiodor Pavlovitch commença à s'agiter et se prépara à partir. Dans quel dessein ? Lui-même n'en savait rien. Peut-être eut-il vraiment fait le voyage de Pétersbourg, mais cette décision prise, il estima avoir le droit, pour se donner du cœur, de se saouler dans toutes les règles. Sur ces entrefaites, la famille de sa femme apprit que la malheureuse était morte, subitement, dans un taudis, de la fièvre typhoïde, disent les uns. De faim, prétendent les autres. Fiodor Pavlovitch était ivre lorsqu'on lui annonça la mort de sa femme. On raconte qu'il courut dans la rue et se mit à crier, dans sa joie, les bras au ciel. « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur !» D'autres prétendent qu'il sanglotait comme un enfant, au point qu'il faisait peine à voir, malgré le dégoût qu'il inspirait. Il se peut fort bien que l'une et l'autre version soient vraies, c'est-à-dire qu'il se réjouit de sa libération tout en pleurant sa libératrice. Bien souvent, les gens, même méchants, sont plus naïfs, plus simples que nous ne le pensons. Nous aussi, d'ailleurs. Chapitre 2. Karamazov se débarrasse de son premier fils. On peut se figurer quel père et quel éducateur pouvait être un tel homme. Comme il était à prévoir, il délaissa complètement l'enfant qu'il avait eu d'Adélaïde Ivanovna. Non par animosité ou par rancune conjugale, mais simplement parce qu'il l'avait tout à fait oublié. Tandis qu'il excédait tout le monde par ses larmes et ses plaintes et faisait de sa maison un mauvais lieu, le petit Mitya fut recueilli par Grigori, un fidèle serviteur. Si celui-ci n'en avait pas pris soin, l'enfant n'aurait peut-être eu personne pour le changer de linge. De plus, sa famille maternelle parut l'oublier. Son grand-père était mort, sa grand-mère, établie à Moscou, trop souffrante, ses tantes s'étaient mariées, de sorte que Mitya dut passer presque une année dans le pavillon où habitait Grigori. D'ailleurs, si son père s'était souvenu de lui, au fait, il ne pouvait ignorer son existence. Il eut renvoyé l'enfant au pavillon, pour n'être pas gêné dans ses débauches. Mais sur ces entrefaites, arriva de Paris le cousin de feu Adélaïde Ivanovna, Piotr Alexandrovitch Miusov, qui devait par la suite passer de nombreuses années à l'étranger. À cette époque, il était encore tout jeune et se distinguait de sa famille par sa culture et ses belles manières. Occidentaliste convaincu, il devait, vers la fin de sa vie, devenir un libéral à la façon des années 40 et 50. Au cours de sa carrière, il fut en relation avec de nombreux ultra-libéraux, tant en Russie qu'à l'étranger, et connut personnellement Proudhon et Bakounine. Il aimait à évoquer les trois journées de février 1848 à Paris, donnant à entendre qu'il avait failli prendre part aux barricades. C'était un des meilleurs souvenirs de sa jeunesse. Il possédait une belle fortune, environ 1000 âmes, pour compter à la mode ancienne. Sa superbe propriété se trouvait aux abords de notre petite ville et touchait aux terres de notre fameux monastère. Sitôt en possession de son héritage, Piotr Alexandrovitch entama avec les moines un procès interminable au sujet de certains droits de pêche ou de coupe de bois, je ne sais plus au juste. Mais il estima de son devoir, en tant que citoyen éclairé, de faire un procès aux cléricaux. Quand il apprit les malheurs d'Adélaïde Ivanovna, dont il avait gardé bon souvenir, ainsi que l'existence de Mitya, il prit à cœur cette affaire, malgré l'indignation juvénile et le mépris que lui inspirait Fiodor Pavlovitch. C'est alors qu'il vit celui-ci pour la première fois. Il lui déclara ouvertement son intention de se charger de l'enfant. Longtemps après, il racontait, comme un trait caractéristique, que Fiodor Pavlovitch, lorsqu'il fut question de Mitya, parut un moment ne pas comprendre de quel enfant il s'agissait, et même s'étonner d'avoir un jeune fils quelque part dans sa maison. Pour exagérer qu'il fût, le récit de Piotr Alexandrovitch n'en devait pas moins contenir une part de vérité. Effectivement, Fiodor Pavlovitch aima toute sa vie à prendre des attitudes, à jouer un rôle, parfois sans nécessité aucune, et même à son détriment, comme dans le cas présent. C'est d'ailleurs là un trait spécial à beaucoup de gens, même Poinceau. Piotr Alexandrovitch mena l'affaire rondement et fut même tuteur de l'enfant, conjointement avec Fiodor Pavlovitch, sa mère ayant laissé une maison et des terres. Mitya alla demeurer chez ce petit cousin qui n'avait pas de famille. Pressé de retourner à Paris, après avoir réglé ses affaires et assuré la rentrée de ses fermages, il confia l'enfant à l'une de ses tantes qui habitait Moscou. Par la suite, s'étant acclimaté en France, il oublia l'enfant, surtout lorsqu'éclata la révolution de février, qui frappa son imagination pour le reste de ses jours. La tante de Moscou étant morte, Mitya fut recueilli par une de ses filles mariées. Il changea, paraît-il, une quatrième fois de foyer. Je ne m'étends pas là-dessus pour le moment, d'autant plus qu'il sera encore beaucoup question de ce premier rejeton de Fiodor Pavlovitch, et je me borne aux détails indispensables, sans lesquels il m'est impossible de commencer mon roman. Et d'abord, seul des trois fils de Fiodor Pavlovitch, Dmitri grandit dans l'idée qu'il avait quelque fortune et serait indépendant à sa majorité. Son enfance et sa jeunesse furent mouvementées. Il quitta le collège avant terme, entra ensuite dans une école militaire, partit pour le Caucase, servit dans l'armée, fut dégradé pour s'être battu en duel, reprit du service, fit la fête, gaspilla pas mal d'argent. Il n'en reçut de son père qu'une fois majeur, et il avait, en attendant, contracté pas mal de dettes. Il ne vit pour la première fois Fiodor Pavlovitch qu'après sa majorité, lorsqu'il arriva dans le pays, spécialement pour se renseigner sur sa fortune. Son père, semble-t-il, lui déplut dès l'abord. Il ne demeura que peu de temps chez lui et s'empressa de repartir en emportant une certaine somme, après avoir conclu un arrangement pour les revenus de sa propriété. Chose curieuse, il ne put rien tirer de son père quant au rapport et à la valeur du domaine. Fiodor Pavlovitch remarqua d'emblée, il importe de le noter, que Mitya se faisait une idée fausse et exagérée de sa fortune. Il en fut très content, ayant en vue des intérêts particuliers. Il en conclut que le jeune homme était étourdi, emporté, avec des passions vives, et qu'en donnant un os à ronger à ce fêtard, on l'apaiserait jusqu'à nouvel ordre. Il exploita donc la situation, se bornant à lâcher de temps en temps de faibles sommes, jusqu'à ce qu'un beau jour, 4 ans après, Mitya, à bout de patience, reparut dans la localité pour exiger un règlement de compte définitif. À sa stupéfaction, il apprit qu'il ne possédait plus rien. Il avait déjà reçu en espèces de Fiodor Pavlovitch la valeur totale de son bien. Peut-être même restait-il lui redevoir, tant les comptes étaient embrouillés. D'après tel et tel arrangement, conclu à telle ou telle date, il n'avait pas le droit de réclamer davantage, etc. Le jeune homme fut consterné. Il soupçonna la supercherie, se mit hors de lui, en perdit presque la raison. Cette circonstance provoqua la catastrophe dont le récit fait l'objet de mon premier roman, ou plutôt son cadre extérieur. Mais avant d'aborder le dit roman, il faut encore parler des 2 autres fils de Fiodor Pavlovitch et expliquer leur provenance. Chapitre 3. Nouveau mariage et seconds enfants. Fiodor Pavlovitch, après s'être défait du petit Mitya, contracta bientôt un second mariage qui dura 8 ans. Il prit sa seconde femme, également fort jeune, dans une autre province où il s'était rendu en compagnie d'un juif pour traiter une affaire. Quoique fêtard, ivrogne, débauché, il surveillait sans cesse le placement de ses capitaux et faisait presque toujours de bonnes, mais peu honnêtes, opérations. Fille d'un diacre obscur et orpheline dès l'enfance, Sophie Ivanovna avait grandi dans l'opulente maison de sa bienfaitrice, la veuve haut placée du général Vorokov, qui l'élevait et la rendait malheureuse. J'ignore les détails. J'ai seulement entendu dire que la jeune fille, douce, patiente et candide, avait tenté de se pendre un clou dans la dépense, tant l'excédaient les caprices et les éternels reproches de cette vieille, point méchante au fond, mais que son oisiveté rendait insupportable. Fiodor Pavlovitch demanda sa main. On prit des renseignements sur lui et il fut éconduit. Comme lors de son premier mariage, il proposa alors à l'orpheline de l'enlever. Très probablement, elle eût refusé de devenir sa femme si elle avait été mieux renseignée sur son compte. Mais cela se passait dans une autre province, que pouvait d'ailleurs comprendre une jeune fille de 16 ans. Sinon qu'il valait mieux se jeter à l'eau que de demeurer chez sa tutrice. La malheureuse remplaça donc sa bienfaitrice par un bienfaiteur. Cette fois-ci, Fiodor Pavlovitch ne reçut pas un sou, car la générale, furieuse, n'avait rien donné, à part sa malédiction. Du reste, il ne comptait pas sur l'argent. La beauté remarquable de la jeune fille, et surtout sa candeur, l'avait enchanté. Il en était émerveillé, lui, le voluptueux, jusqu'alors épris seulement de charme grossier. Ses yeux innocents me transperçaient l'âme, disait-il par la suite avec un vilain rire. D'ailleurs, cet être corrompu ne pouvait éprouver qu'un attrait sensuel. Fiodor Pavlovitch ne se gêna pas avec sa femme. Comme elle était, pour ainsi dire, coupable envers lui, qui l'avait presque sauvé de la corde, profitant en outre de sa douceur et de sa résignation inouïe, il foula aux pieds la décence conjugale la plus élémentaire. Sa maison devint le théâtre d'orgies auxquelles prenaient part de vilaines femmes. Un trait à noter, c'est que le domestique Grigori, être morne, raisonneur stupide et entêté, qui détestait sa première maîtresse, prit le parti de la seconde, se querellant pour elle avec son maître d'une façon presque intolérable de la part d'un domestique. Un jour, il alla jusqu'à mettre à la porte des donzelles qui festoyaient chez Fiodor Pavlovitch. Plus tard, la malheureuse jeune femme, terrorisée dès l'enfance, fut en proie à une maladie nerveuse fréquente parmi les villageoises et qui leur vaut le nom de « possédée ». Parfois, la malade, victime de terribles crises d'hystérie, en perdait la raison. Elle donna pourtant à son mari deux fils. Le premier, Ivan, après un an de mariage. Le second, Alexeï, 3 ans plus tard. À sa mort, le jeune Alexeï était dans sa 4e année, et, si étrange que cela paraisse, il se rappela sa mère toute sa vie, mais comme à travers un songe. Quand elle fut morte, les deux garçons eurent le même sort que le premier. Leur père les oublia, les délaissa totalement, et ils furent recueillis par le même Grigori dans son pavillon. C'est là que les trouva la vieille générale, la bienfaitrice qui avait élevé leur mère. Elle vivait encore, et durant ces 8 années, sa rancune n'avait pas désarmé. Parfaitement au courant de l'existence que menait sa Sophie, en apprenant sa maladie et les scandales qu'elle endurait, elle déclara 2 ou 3 fois aux parasites de son entourage « C'est bien fait, Dieu l'a puni de son ingratitude ». 3 mois exactement après la mort de Sophie Ivanovna, la générale parut dans notre ville et se présenta chez Fiodor Pavlovitch. Son séjour ne dura qu'une demi-heure, mais elle mit le temps à profit. C'était le soir. Fiodor Pavlovitch, qu'elle n'avait pas vu depuis 8 ans, se montra en état d'ivresse. On raconte que, dès l'abord, sans explication aucune, elle lui donna 2 soufflets retentissants, puis le tira 3 fois par son toupet de haut en bas. Sans ajouter un mot, elle alla droit au pavillon où se trouvaient les enfants. Ils n'étaient ni lavés ni tenus proprement. Ce que voyant, l'irascible vieille donna encore un soufflet à Grigori et lui déclara qu'elle emmenait les garçons. Tels qu'ils étaient, elle les enveloppa dans une couverture, les mit en voiture et repartit. Grigori encaissa le soufflet en bon serviteur et s'abstint de toute insolence. En reconduisant la vieille dame à sa voiture, il dit d'un ton grave, après s'être incliné profondément, que Dieu la récompenserait de sa bonne action. « Tu n'es qu'un égot !» lui cria-t-elle en guise d'adieu. Après examen de l'affaire, Fiodor Pavlovitch se déclara satisfait et accorda par la suite son consentement formel à l'éducation des enfants chez la générale. Il alla en ville se vanter des soufflets reçus. Peu de temps après, la générale mourut. Elle laissait, par testament, 1000 roubles à chacun des 2 petits, pour leur instruction. Cet argent devait être dépensé à leur profit intégralement, mais suffire jusqu'à leur majorité, une telle somme étant déjà beaucoup pour de pareils enfants. Si d'autres voulaient faire davantage, libre à eux, etc. Sans avoir lu le testament, je sais qu'il renfermait un passage bizarre, dans ce goût par trop original. Le principal héritier de la vieille dame était par bonheur un honnête homme, le maréchal de la noblesse de notre province, Eutim Pedrovitch Polienov. Il échangea quelques lettres avec Fiodor Pavlovitch, qui, sans refuser catégoriquement et tout en faisant du sentiment, traînait les choses en longueur. Voyant qu'il ne tirerait jamais rien du personnage, Eutim Petrovitch s'intéressa personnellement aux orphelins et conçut une affection particulière pour le cadet, qui demeura longtemps dans sa famille. J'attire sur ce point l'attention du lecteur. C'est à Eutime Petrovitch, un noble caractère comme on en rencontre peu, que les jeunes gens furent redevables de leur éducation. Il conserva intact aux enfants leur petit capital, qui, à leur majorité, atteignait 2 000 roubles avec les intérêts. Les éleva à ses frais en dépensant pour chacun d'eux bien plus de 1 000 roubles. Je ne ferai pas maintenant un récit détaillé de leur enfance et de leur jeunesse, me bornant aux principales circonstances. L'aîné, Ivan, devint un adolescent morose, renfermé, mais nullement timide. Il avait compris de bonne heure que son frère et lui grandissaient chez des étrangers, par grâce, qu'ils avaient pour père un individu qui leur faisait honte, etc. Ce garçon montra dès sa plus tendre enfance, à ce qu'on raconte tout au moins, de brillantes capacités pour l'étude. À l'âge de 13 ans environ, il quitta la famille d'Eutime Petrovitch pour suivre les cours d'un collège de Moscou et prendre pension chez un fameux pédagogue, ami d'enfance de son bienfaiteur. Plus tard, Ivan racontait que celui-ci avait été inspiré par son ardeur au bien et par l'idée qu'un adolescent génialement doué devait être élevé par un éducateur génial. Au reste, ni son protecteur, ni l'éducateur de génie n'était plus lorsque le jeune homme entra à l'université. Eutime Petrovitch ayant mal pris ses dispositions, le versement du legs de la générale traîna en longueur, par suite de diverses formalités et de retards inévitables chez nous. Le jeune homme se trouva donc fort gêné pendant ses 2 premières années d'université et dut gagner sa vie tout en poursuivant ses études. Il faut noter qu'alors, il n'essaya nullement de correspondre avec son père. Peut-être était-ce par fierté, par dédain envers lui. Peut-être aussi le froid calcul de sa raison lui démontrait-il qu'il n'avait rien à attendre du bonhomme. Quoi qu'il en fût, le jeune homme ne se troubla pas. Trouva du travail, d'abord des leçons à 20 kopecks, ensuite des articles en 10 lignes sur les scènes de la rue, signé un témoin oculaire, qu'il portait à divers journaux. Ces articles, dit-on, étaient toujours curieux et spirituels, ce qui assura leur succès. De la sorte, le jeune reporter montra sa supériorité pratique et intellectuelle sur les nombreux étudiants des deux sexes, toujours nécessiteux, qui, tant à Pétersbourg qu'à Moscou, assiège du matin au soir les bureaux des journaux et des périodiques, n'imaginant rien de mieux que de réitérer leur éternelle demande de copie et de traduction du français. Une fois introduit dans le monde des journaux, Ivan Fiodorovitch ne perdit pas le contact. Durant ses dernières années d'université, il donna avec beaucoup de talent des comptes rendus d'ouvrages spéciaux et se fit ainsi connaître dans les milieux littéraires. Mais ce n'est que vers la fin qu'il réussit, par hasard, à éveiller une attention particulière dans un cercle de lecteurs beaucoup plus étendu. À sa sortie de l'université, et alors qu'il se préparait à partir pour l'étranger avec ses 2 000 roubles, Ivan Fiodorovitch publia, dans un grand journal, un article étrange qui attira même l'attention des profanes. Le sujet lui était apparemment inconnu, puisqu'il avait suivi les cours de la faculté des sciences, et que l'article traitait la question des tribunaux ecclésiastiques, partout soulevé alors. Tout en examinant quelques opinions émises sur cette matière, il exposait également ses vues personnelles. Ce qui frappait, c'était le ton et l'inattendu de la conclusion. Or, tandis que beaucoup d'ecclésiastiques tenaient l'auteur pour leur partisan, les laïcs, aussi bien que les athées, applaudissaient à ses idées. En fin de compte, quelques personnes décidèrent que l'article entier n'était qu'une effrontée mystification. Si je mentionne cet épisode, c'est surtout parce que l'article en question parvint jusqu'à notre fameux monastère, où l'on s'intéressait à la question des tribunaux ecclésiastiques, et qui lui provoqua une grande perplexité. Le nom de l'auteur, une fois connu, le fait qu'il était originaire de notre ville et le fils de ce Fiodor Pavlovitch accrut l'intérêt. Vers la même époque, l'auteur en personne parut. Pourquoi Ivan Fiodorovitch était-il venu chez son père? Il me souvient que je me posais dès alors cette question avec une certaine inquiétude. Cette arrivée si fatale, qui engendra de telles conséquences, demeura longtemps pour moi inexpliquée. À vrai dire, il était étrange qu'un homme aussi savant, d'apparence si fière et si réservée, se montrât dans une maison aussi mal famée. Fiodor Pavlovitch l'avait ignoré toute sa vie, et, bien qu'il n'eût donné pour rien au monde de l'argent si on lui en avait demandé, il craignait toujours que ses fils ne vinssent lui en réclamer. Et voilà que le jeune homme s'installe chez un tel père, passe auprès de lui un mois, puis deux, et qu'ils s'entendent on ne peut mieux. Je ne fus pas le seul à m'étonner de cet accord. Piotr Alexandrovitch Miusov, dont il a déjà été question, et qui à cette époque avait élu domicile à Paris, séjournait alors dans sa propriété suburbaine. Plus que tous, il se montrait surpris, ayant fait la connaissance du jeune homme qui l'intéressait fort et avec lequel il rivalisait d'érudition. « Il est fier, nous disait-il, il se tirera toujours d'affaire. Dès maintenant, il a de quoi partir pour l'étranger. Que fait-il ici? Chacun sait qu'il n'est pas venu trouver son père pour de l'argent, que celui-ci lui refuserait d'ailleurs. Il n'aime ni boire ni courir les filles. Pourtant, le vieillard ne peut se passer de lui. » C'était vrai. Le jeune exerçait une influence visible sur le vieillard, qui, bien que fort entêté et capricieux, l'écoutait parfois. Il commença même à se comporter plus décemment. On sut plus tard qu'Ivan était arrivé en partie à la demande et pour les intérêts de son frère aîné, Dmitri, qu'il vit pour la première fois à cette occasion, mais avec lequel il correspondait déjà au sujet d'une affaire importante, dont il sera parlé avec détail en son temps. Même lorsque je fus au courant, Ivan Fiodorovitch me parut énigmatique, et son arrivée parmi nous difficile à expliquer. J'ajouterai qu'il tenait lieu d'arbitre et de réconciliateur entre son père et son frère aîné, alors totalement brouillé, ce dernier ayant même intenté une action en justice. Pour la première fois, je le répète, cette famille, dont certains membres ne s'étaient jamais vus, se trouva réunie. Seul le cadet, Alexeï, habitait le pays depuis un an déjà. Il est malaisé de parler de lui dans ce préambule avant de le mettre en scène dans le roman. Je dois pourtant m'étendre à son sujet pour élucider un point étrange, à savoir que mon héros apparaît, dès la première scène, sous l'habit d'un novice. Depuis un an, en effet, il habitait notre monastère et se préparait à y passer le reste de ses jours. Chapitre 4. Le troisième fils, Alyosha. Il avait 20 ans. Ses frères, Ivan et Dmitri, étaient alors respectivement dans leur 24e et leur 28e année. Je dois prévenir que ce jeune Alyosha n'était nullement fanatique, ni même, à ce que je crois, mystique. À mon sens, c'était simplement un philanthrope en avance sur son temps. Et s'il avait choisi la vie monastique, c'était parce qu'alors elle seule l'attirait et représentait pour lui l'ascension idéale vers l'amour radieux de son âme, dégagée des ténèbres et des haines d'ici-bas. Elle l'attirait, cette voie, uniquement parce qu'il y avait rencontré un être exceptionnel à ses yeux, notre fameux Staret, Zosim, auquel il s'était attaché de toute la ferveur novice de son cœur inassouvi. Je conviens qu'il avait, dès le berceau, fait preuve d'étrangeté. J'ai déjà raconté qu'ayant perdu sa mère à 4 ans, il se rappela toute sa vie son visage ses caresses, comme s'il la voyait vivante. De pareils souvenirs peuvent persister, chacun le sait, même à un âge plus tendre, mais ils ne demeurent que comme des points lumineux dans les ténèbres, comme le fragment d'un immense tableau qui aurait disparu. C'était le cas pour lui. Il se rappelait une douce soirée d'été, la fenêtre ouverte aux rayons obliques du couchant. Dans un coin de la chambre, une image sainte avec la lampe allumée, et devant l'image, sa mère agenouillée, sanglotante avec force gémissement comme dans une crise de nerfs. Elle l'avait saisi dans ses bras, le serrant à l'étouffer, et implorait pour lui la Sainte Vierge, relâchant son étreinte pour le tendre vers l'image. Mais la nourrice était accourue et l'avait arrachée, effrayée, des bras de la malheureuse. Alyosha se rappelait le visage de sa mère, exalté, sublime, mais il n'aimait guère à en parler. Dans son enfance et sa jeunesse, il se montra plutôt concentré et même taciturne, non par timidité ou sauvagerie, mais par une sorte de préoccupation intérieure si profonde qu'elle lui faisait oublier son entourage. Cependant, il aimait ses semblables, et toute sa vie, sans passer jamais pour négo, il eut foi en eux. Quelque chose en lui révélait qu'il ne voulait pas se faire le juge d'autrui. Il paraissait même tout admettre sans réprobation, quoique souvent avec une profonde mélancolie. Bien plus, il devint, dès sa jeunesse, inaccessible à l'étonnement et à la frayeur. Arrivé à 20 ans chez son père, dans un foyer de basse débauche, lui, chaste et pur, il se retirait en silence quand la vie lui devenait intolérable. Mais sans témoigner à personne, ni réprobation, ni mépris. Son père, que sa qualité d'ancien parasite rendait fort sensible aux offenses, lui fit d'abord mauvais accueil. « Il se tait, disait-il, et n'en pense pas moins. » Mais il ne tarda pas à l'embrasser, à le caresser. C'était, à vrai dire, des larmes et un attendrissement d'ivrogne, mais on voyait qu'il l'aimait de cet amour sincère, profond, qu'il avait été jusque-là incapable de ressentir pour qui que ce fût. Depuis son enfance, Alyosha avait toujours été aimé de tout le monde. Dans la famille de son bienfaiteur, Eutym Petrovitch Polienov, on s'était tellement attaché à lui que tous le considéraient comme l'enfant de la maison. Or, il était entré chez eux à un âge où l'enfant est encore incapable de calcul et de ruse, où il ignore les intrigues qui attirent la faveur et l'art de se faire aimer. Ce don d'éveiller la sympathie était par conséquent chez lui naturel, spontané, sans artifice. Il en alla de même à l'école, où les enfants comme Alyosha s'attirent d'ordinaire la méfiance, les railleries, voire la haine de leurs camarades. Dès l'enfance, il aimait par exemple à s'isoler pour rêver, à lire dans un coin. Néanmoins, il fut, durant ses années de collège, l'objet de l'affection générale. Il n'était guère folâtre, ni même gai. À le considérer, on voyait vite que ce n'était pas de l'amorosité, mais, au contraire, une humeur égale et sereine. Il ne voulait jamais se mettre en avant. Pour cette raison, peut-être, il ne craignait jamais personne, et ses condisciples remarquaient que, loin d'en tirer vanité, il paraissait ignorer sa hardiesse, son intrépidité. Il ignorait la rancune. Une heure après avoir été offensé, il répondait à l'offenseur ou lui adressait lui-même la parole d'un air confiant, tranquille, comme s'il ne s'était rien passé entre eux. Loin de paraître avoir oublié l'offense ou résolu à la pardonner, il ne se considérait pas comme offensé, et cela lui gagnait le cœur des enfants. Un seul trait de son caractère incitait fréquemment tous ses camarades à se moquer de lui, non par méchanceté, mais par divertissement. Il était d'une pudeur, d'une chasteté exaltée, farouche. Il ne pouvait supporter certains mots et certaines conversations sur les femmes, qui, par malheur, sont de tradition dans les écoles. Des jeunes gens à l'âme et au cœur pur, presque encore des enfants, aiment souvent à s'entretenir des scènes et d'images qui parfois répugnent aux soldats eux-mêmes. D'ailleurs, ces derniers en savent moins sous ce rapport que les jeunes garçons de notre société cultivée. Il n'y a pas là encore, je veux bien, de corruption morale, ni de réel cynisme, mais il y en a l'apparence, et cela passe fréquemment à leurs yeux pour quelque chose de délicat, de fin, digne d'être imité. Voyant Alyosha Karamazov se boucher rapidement les oreilles quand on parlait de cela, il faisait parfois cercle autour de lui, écartait ses mains de force et lui criait des obscénités. Alexeï se débattait, se couchait par terre en se cachant le visage. Il supportait l'offense en silence et sans se fâcher. À la fin, on le laissa en repos, on cessa de le traiter de fillette, on éprouva même pour lui de la compassion. Il compta toujours parmi les meilleurs élèves, sans jamais prétendre à la première place. Après la mort de Tim Petrovitch, Alyosha passa encore 2 ans au collège. La veuve partit bientôt pour un long voyage en Italie avec toute sa famille, qui se composait de femmes. Le jeune homme alla demeurer chez des parentes éloignées du défunt, 2 dames qu'il n'avait jamais vues. Il ignorait dans quelles conditions il séjournait chez elles. C'était d'ailleurs un de ses traits caractéristiques de ne jamais s'inquiéter aux frais de qui il vivait. À cet égard, il était tout le contraire de son aîné, Ivan, qui avait connu la pauvreté dans ses 2 premières années d'université et qui avait souffert, dès l'enfance, de manger le pain d'un bienfaiteur. Mais on ne pouvait juger sévèrement cette particularité du caractère d'Alexeï, car il suffisait de le connaître un peu pour se convaincre qu'il était de ces innocents capables de donner toute leur fortune à une bonne œuvre, ou même à un chevalier d'industrie. En général, il ignorait la valeur de l'argent. Oh, figuré, s'entend. Quand on lui donnait de l'argent de poche, il ne savait qu'en faire durant des semaines, ou le dépenser en un clin d'œil. Quand Piotr Alexandrovitch Miusov, fort chatouilleux en ce qui concerne l'honnêteté bourgeoise, eut plus tard l'occasion d'observer Alexeï, il le caractérisa ainsi. « Voilà peut-être le seul homme au monde qui, demeuré sans ressources dans une grande ville inconnue, ne mourrait ni de faim ni de froid, car immédiatement on le nourrirait, on lui viendrait en aide, sinon lui-même se tirerait aussitôt d'affaire, sans peine ni humiliation, et ce serait un plaisir pour les autres de lui rendre service. » Un an avant la fin de ses études, il déclara soudain à ses dames qu'il partait chez son père pour une affaire qui lui était venue en tête. Celles-ci le regrettèrent beaucoup. Elles ne le laissèrent pas engager la montre que lui avait donnée la famille de son bienfaiteur avant de partir pour l'étranger. Elles le pourvurent d'argent, de linge, de vêtements, mais il leur rendit la moitié de la somme en déclarant qu'il tenait à voyager en 3e. Comme son père lui demandait pourquoi il n'avait pas achevé ses études, il ne répondit rien, mais se montra plus pensif que d'habitude. Bientôt on constata qu'il cherchait la tombe de sa mère. Il avoua même n'être venu que pour cela. Mais ce n'était probablement pas la seule cause de son arrivée. Sans doute n'aurait-il pu expliquer à quelle impulsion soudaine il avait obéi en se lançant délibérément dans une voie nouvelle, inconnue. Fiodor Pavlovitch ne put lui indiquer la tombe de sa mère, car après tant d'années, il en avait totalement oublié la place. Disons un mot de Fiodor Pavlovitch. Il était demeuré longtemps absent de notre ville. 3 ou 4 ans après la mort de sa seconde femme, il partit pour le midi de la Russie et s'établit à Odessa, où il fit la connaissance, suivant ses propres paroles, de « beaucoup de juifs, juives et juivaillons de tout acabit », et finit par être reçu, non seulement chez les juifs, mais aussi chez les israélites. Il faut croire que durant cette période, il avait développé l'art d'amasser et de soutirer de l'argent. Il reparut dans notre ville 3 ans seulement avant l'arrivée d'Alyosha. Ses anciennes connaissances le trouvèrent fort vieilli, bien qu'il ne fût pas très âgé. Il se montra plus effronté que jamais. L'ancien bouffon éprouvait maintenant le besoin de rire aux dépens d'autrui. Il aimait à courir la gueuse d'une façon plus répugnante qu'auparavant, et grâce à lui, de nouveaux cabarets s'ouvrirent dans notre district. On lui attribuait une fortune de 100 000 roubles, ou peu s'en faut, et bientôt, beaucoup de gens se trouvèrent ses débiteurs, en échange de solides garanties. Dans les derniers temps, il s'était ratatiné, commençait à perdre l'égalité d'humeur et le contrôle de soi-même. Incapable de se concentrer, il tomba dans une sorte d'hébétude et s'enivra de plus en plus. Sans Grigori, qui avait aussi beaucoup vieilli et qui le surveillait parfois comme un mentor, l'existence de Fiodor Pavlovitch eût été hérissée de difficultés. L'arrivée d'Alyosha influa sur son moral, et des souvenirs, qui dormaient depuis longtemps, se réveillèrent dans l'âme de ce vieillard prématuré. « Sais-tu, répétait-il à son fils en l'observant, que tu ressembles à la possédée ?» C'est ainsi qu'il appelait sa seconde femme. Ce fut Grigori qui indiqua à Alyosha la tombe de la possédée. Il le conduisit au cimetière, lui montra dans un coin éloigné une dalle en fonte, modeste mais décente, où était gravé le nom, la condition, l'âge de la défunte, avec la date de sa mort. En bas figurait un quatrain, comme on en lit fréquemment sur la tombe des gens de classe moyenne. Chose étonnante, cette dalle était l'œuvre de Grigori. C'est lui qui l'avait placée, à ses frais, sur la tombe de la pauvre possédée, après avoir souvent importuné son maître par ses allusions. Celui-ci était enfin parti pour Odessa, en haussant les épaules sur les tombes et sur tous ses souvenirs. Devant la tombe de sa mère, Alyosha ne montra aucune émotion particulière. Il prêta l'oreille au grave récit que fit Grigori de l'érection de la dalle, se recueillit quelques instants et se retira sans avoir prononcé une parole. Depuis, de toute l'année peut-être, il ne retourna pas au cimetière. Mais cet épisode produisit sur Fiodor Pavlovitch un effet fort original. Il prit 1 000 roubles et les porta au monastère pour le repos de l'âme de sa femme, non pas de la seconde, la possédée, mais de la première, celle qui le rossait. Le même soir, il s'enivra et déblatéra contre les moines en présence d'Alyosha. C'était en effet un esprit fort, qui n'avait peut-être jamais mis le moindre cierge devant une image. Les sentiments et la pensée de pareils individus ont parfois des élans aussi brusques qu'étranges. J'ai déjà dit qu'il s'était fort ratatiné. Sa physionomie portait alors les traces révélatrices de l'existence qu'il avait menée. Aux pochettes qui pendaient sous ses petits yeux toujours effrontés, méfiants, malicieux, aux rides profondes qui sillonnaient son visage gras, venait s'ajouter, sous son menton pointu, une pomme d'Adam charnue qui lui donnait un air hideusement sensuel. Joignez-y une large bouche de carnassier, aux lèvres bouffies, où apparaissent les débris noirâtres de ses dents pourries, et qui répandaient de la salive chaque fois qu'il prenait la parole. Au reste, il aimait à plaisanter sur sa figure, bien qu'elle lui plût, surtout son nez, pas très grand, mais fort mince et recourbé. « Un vrai nez romain, disait-il. Avec ma pomme d'Adam, je ressemble à un patricien de la décadence. » Il s'en montrait fier. Quelque temps après avoir découvert la tombe de sa mère, Alyosha lui déclara tout à coup qu'il voulait entrer au monastère, où les moines étaient disposés à l'admettre comme novice. Il ajouta que c'était son plus cher désir et qu'il implorait son consentement paternel. Le vieillard savait déjà que le staret, Zosim, avait produit sur son doux garçon une impression particulière. « Ce staret est assurément le plus honnête de nos moines, » déclara-t-il, après avoir écouté Alyosha dans un silence pensif, mais sans se montrer surpris de sa demande. « Voilà où tu veux aller, mon doux garçon !» À moitié ivre, il eut un sourire d'ivrogne empreint de ruse et de finesse. « Je prévoyais que tu en arriverais là. Eh bien, soit, tu as 2000 roubles, ce sera ta dot. Quant à moi, mon ange, je ne t'abandonnerai jamais, et je verserai pour toi ce qu'il faut, si on le demande. Sinon, inutile, n'est-ce pas, de nous engager. Il ne te faut pas plus d'argent que de grains à un canari. Je connais, sais-tu, auprès d'un certain monastère, un hameau habité exclusivement par les épouses des moines, comme on les appelle. Il y en a une 30aine, je crois. Je l'ai visité. C'est intéressant, son genre. Ça rompt la monotonie. Par malheur, on n'y trouve que des Russes, pas une Française. On pourrait en avoir, ce ne sont pas les fonds qui manquent. Quand elles le sauront, elles viendront. Ici, il n'y a pas de femmes, mais 200 moines. Ils jeûnent consciencieusement, j'en conviens. Ainsi, tu veux entrer en religion. Tu me fais de la peine, Alyosha. Vraiment, je m'étais attaché à toi. Du reste, voilà une bonne occasion. Prie pour nous autres, pécheurs à la conscience chargée. Je me suis souvent demandé, qui priera un jour pour moi? Mon cher garçon, je suis tout à fait stupide à cet égard. Tu en doutes, peut-être. Tout à fait, vois-tu. Malgré ma bêtise, je réfléchis parfois. Je pense que les diables me traîneront bien sûr avec leurs crocs après ma mort. Et je me dis, d'où viennent-ils ces crocs? En quoi sont-ils? En fer? Où les forge-t-on? Aurait-il une fabrique? Les religieux, par exemple, sont persuadés que l'enfer a un plafond. Je veux bien, quant à moi, croire à l'enfer, mais à un enfer sans plafond. C'est plus délicat, plus éclairé, comme chez les luthériens. Au fond, me diras-tu, qu'importe qu'il y ait ou non un plafond. Voilà le hic. S'il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de crocs. Mais alors, qui me traînerait? Et si l'on ne me traînait pas, où serait la justice en ce monde? Il faudrait les inventer, ces crocs, pour moi spécialement, pour moi seul. Si tu savais, Alyosha, quelle éhontée je suis. Il n'y a pas de crocs là-bas, proféra Alyosha à voix basse en regardant sérieusement son père. Ah, il n'y a que des ombres de crocs. Je sais, je sais. C'est ainsi qu'un Français décrivait l'enfer. J'ai vu l'ombre d'un cocher qui, avec l'ombre d'une brosse, frottait l'ombre d'un carrosse. D'où sais-tu, mon cher, qu'il n'y a pas de crocs? Une fois chez les moines, tu changeras de note. Au fait, pars, va démêler la vérité et reviens me renseigner. Je partirai plus tranquillement pour l'autre monde quand je saurai ce qui s'y passe. Ce sera plus convenable pour toi d'être chez les moines que chez moi, vieille ivrogne, avec des filles. Bien que tu sois, comme un ange, au-dessus de tout cela. Il en sera peut-être de même là-bas. Et si je te laisse aller, c'est que je compte là-dessus. Tu n'es pas sot. Ton ardeur s'éteindra et tu reviendras guéri. Pour moi, je t'attendrai. Car je sens que tu es le seul en ce monde qui ne me blâme point, mon cher garçon. Je ne peux pas ne pas le sentir. » Et il se mit à pleurnicher. Il était sentimental. Oui, il était méchant et sentimental. Chapitre 5. Les Startsi. Le lecteur se figure peut-être mon héros sous les traits d'un pâle rêveur, malingre et extatique. Au contraire, Alyosha était un jeune homme de 19 ans, bien fait de sa personne et débordant de santé. Il avait la taille élancée, les cheveux châtains, le visage régulier, quoique un peu allongé, les joues vermeilles, les yeux gris foncés, brillants, grands ouverts, l'air pensif et fort calme. On m'objectera que des joues rouges n'empêchent pas d'être fanatique ou mystique. Or, il me semble qu'Alyosha était plus que n'importe qui réaliste. Certes, il croyait aux miracles, mais à mon sens, les miracles ne troubleront jamais le réaliste, car ce ne sont pas eux qui l'inclinent à croire. Un véritable réaliste, s'il est incrédule, trouve toujours en lui la force et la faculté de ne pas croire même aux miracles. Et si ce dernier se présente comme un fait incontestable, il doutera de ses sens plutôt que d'admettre le fait. S'il l'admet, ce sera comme un fait naturel, mais inconnu de lui jusqu'alors. Chez le réaliste, ce n'est pas la foi qui naît du miracle, c'est le miracle qui naît de la foi. Si le réaliste acquiert la foi, il lui faut, en vertu de son réalisme, admettre aussi le miracle. L'apôtre Thomas déclara qu'il ne croirait pas avant d'avoir vu. Ensuite, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Était-ce le miracle qu'il avait obligé à croire? Très probablement que non. Il croyait parce qu'il désirait croire, et peut-être avait-il déjà la foi entière dans les replis cachés de son cœur, même lorsqu'il déclarait « Je ne croirai pas avant d'avoir vu ». On dira sans doute qu'Alyosha était peu développé, qu'il n'avait pas achevé ses études. Ce dernier fait est exact, mais il serait fort injuste d'en inférer qu'il était obtus ou stupide. Je répète ce que j'ai déjà dit. Il avait choisi cette voie uniquement parce qu'elle seule l'attirait alors et qu'elle représentait l'ascension idéale vers la lumière de son âme dégagée des ténèbres. En outre, ce jeune homme était bien de son époque, c'est-à-dire loyal, avide de vérité, la cherchant avec foi, et une fois trouvé, voulant y participer de toute la force de son âme, voulant des réalisations immédiates, et prêt à tout sacrifier à cette fin, même sa vie. Par malheur, ces jeunes gens ne comprennent pas qu'il est souvent bien facile de sacrifier sa vie, tandis que consacrer, par exemple, 5 ou 6 années de sa belle jeunesse à l'étude et à la science, ne fût-ce que pour décupler ses forces afin de servir la vérité et d'atteindre le but qu'on s'est assigné, c'est là un sacrifice qui les dépasse. Alyosha n'avait fait que choisir la voie opposée à toutes les autres, mais avec la même soif de réalisation immédiate. Aussitôt qu'il se fut convaincu, après de sérieuses réflexions, que Dieu et l'immortalité existent, il se dit naturellement « Je veux vivre pour l'immortalité, je n'admets pas de compromis ». Pareillement, s'il avait conclu qu'il n'y a ni Dieu ni immortalité, il serait devenu tout de suite athée et socialiste. Car le socialisme, ce n'est pas seulement la question ouvrière ou celle du quatrième état, mais c'est surtout la question de l'athéisme, de son incarnation contemporaine. La question de la tour de Babel qui se construit sans Dieu, non pour atteindre les cieux de la terre, mais pour abaisser les cieux jusqu'à la terre. Il paraissait étrange et impossible à Alyosha de vivre comme auparavant. Il est dit « Si tu veux être parfait, donne tout ce que tu as et suis-moi. » Alyosha se disait « Je ne peux pas donner au lieu de tout 2 roubles et au lieu de « suis-moi » aller seulement à la messe. » Parmi les souvenirs de sa petite enfance, il se rappelait peut-être notre monastère où sa mère avait pu le mener aux offices. Peut-être y eut-il l'influence des rayons obliques du soleil couchant devant l'image vers laquelle le tendait sa mère, la possédée. Il arriva chez nous pensif, uniquement pour voir s'il s'agissait ici de tout ou seulement de 2 roubles, et rencontra au monastère ce staré. C'était le staré Zosime, comme je l'ai déjà expliqué plus haut. Il faudrait dire ici quelques mots du rôle joué par les starci dans nos monastères, et je regrette de n'avoir pas dans ce domaine toute la compétence nécessaire. J'essaierai pourtant de le faire à grands traits. Les spécialistes compétents assurent que l'institution des Startsi fit son apparition dans les monastères russes à une époque récente, il y a moins d'un siècle, alors que dans tout l'Orient orthodoxe, surtout au Sinaï et au mont Athos, elle existe depuis bien plus de 1000 ans. On prétend que les Startsi existaient en Russie dans des temps fort anciens, ou qu'ils auraient dû exister, mais que, par suite des calamités qui survinrent, le joug tatar, les troubles, l'interruption des anciennes relations avec l'Orient après la chute de Constantinople, cette institution se perdit parmi nous, et les Startsi disparurent. Elle fut ressuscitée par l'un des plus grands ascètes, Paisius Velichkovski, et par ses disciples, mais jusqu'à présent, après un siècle, elle existe dans fort peu de monastères, et a même, ou peu s'en faut, été en butte aux persécutions, comme une innovation inconnue en Russie. Elle fleurissait surtout dans le fameux ermitage de Kozelskaya Optine. J'ignore quand et par qui elle fut implantée dans notre monastère. Mais il s'y était succédé déjà 3 Startsi, dont Zosim était le dernier. Il succombait presque à la faiblesse et aux maladies, et on ne savait par qui le remplacer. Pour notre monastère, c'était là une grave question, car jusqu'à présent, rien ne l'avait distingué. Il ne possédait ni reliques saintes, ni icônes miraculeuses. Les traditions glorieuses se rattachant à notre histoire, les hauts faits historiques et les services rendus à la patrie lui manquaient également. Il était devenu florissant et fameux dans toute la Russie grâce à ses Startsi, que les pèlerins venaient en foule voir et écouter de tous les points du pays, à des milliers de verstes. Qu'est-ce qu'un staret ? Le staret, c'est celui qui absorbe votre âme et votre volonté dans les siennes. Ayant choisi un staret, vous abdiquez votre volonté, et vous la lui remettez en toute obéissance, avec une entière résignation. Le pénitent subit volontairement cette épreuve, ce dur apprentissage, dans l'espoir, après un long stage, de se vaincre lui-même, de se dominer au point d'atteindre enfin, après avoir obéi toute sa vie, à la liberté parfaite, c'est-à-dire à la liberté vis-à-vis de soi-même, et d'éviter le sort de ceux qui ont vécu sans se trouver en eux-mêmes. Cette invention, c'est-à-dire l'institution des Startsi, n'est pas théorique, mais tirée en Orient d'une pratique millénaire. Les obligations envers le staré sont bien autre chose que l'obéissance habituelle qui a toujours existé également dans les monastères russes. Là-bas, la confession de tous les militants au staré est perpétuelle et le lien qui rattache le confesseur au confessé indissoluble. On raconte que dans les temps antiques du christianisme, un novice, après avoir manqué à un devoir prescrit par son staré, quitta le monastère pour se rendre dans un autre pays, de Syrie en Égypte. Là, il accomplit des actes sublimes et fut enfin jugé digne de subir le martyre pour la foi. Quand l'Église allait l'enterrer en le révérant déjà comme un saint, et lorsque le diacre prononça « Que les catéchumènes sortent !» Le cercueil qui contenait le corps du martyr fut enlevé de sa place et projeté hors du temple 3 fois de suite. On apprit enfin que ce saint martyr avait enfreint l'obédience et quitté son staré, que par conséquent, il ne pouvait être pardonné sans le consentement de ce dernier, malgré sa vie sublime. Mais lorsque le staré, appelé, l'eut délié de l'obédience, on put l'enterrer sans difficulté. Sans doute, ce n'est qu'une ancienne légende, mais voici un fait récent. Un religieux faisait son salut au mont Athos, qu'il chérissait de toute son âme, comme un sanctuaire et une paisible retraite, quand son staré lui ordonna soudain de partir pour aller d'abord à Jérusalem saluer les lieux saints, puis retourner dans le nord en Sibérie. « C'est là-bas qu'est ta place, et non ici !» Le moine, consterné et désolé, alla trouver le patriarche de Constantinople et le supplia de le relever de l'obédience. Mais le chef de l'Église lui répondit que non seulement lui, patriarche, ne pouvait le délier, mais qu'il n'y avait aucun pouvoir au monde capable de le faire, excepté le staré dont il dépendait. On voit de la sorte que, dans certains cas, les starci sont investis d'une autorité sans bornes et incompréhensible. Voilà pourquoi, dans beaucoup de nos monastères, cette institution fut d'abord presque persécutée. Pourtant, le peuple témoigna tout de suite une grande vénération aux starci. C'est ainsi que les petites gens et les personnes les plus distinguées venaient en foule se prosterner devant les starci de notre monastère et leur confesser leurs doutes, leurs péchés, leurs souffrances, implorant conseils et directives. Ce que voyant, les adversaires des starci leur reprochaient, parmi d'autres accusations, d'avilir arbitrairement le sacrement de la confession. Bien que les confidences ininterrompues du novice ou d'un laïc au staré n'aient nullement le caractère d'un sacrement. Quoi qu'il en soit, l'institution des starci s'est maintenue et elle s'implante peu à peu dans les monastères russes. Il est vrai que ce moyen éprouvé et déjà millénaire de régénération morale, qui fait passer l'homme de l'esclavage à la liberté en le perfectionnant, peut aussi devenir une arme à deux tranchants. Au lieu de l'humilité et de l'empire sur soi-même, il peut développer un orgueil satanique et faire un esclave au lieu d'un homme libre. Le staré Zosime avait 65 ans. Il descendait d'une famille de propriétaires. Dans sa jeunesse, il avait servi dans l'armée comme officier au Caucase. Sans doute, Alyosha avait été frappé par un don particulier de son âme. Il habitait la cellule même du staré, qu'il aimait fort et l'admettait auprès de lui. Il faut noter qu'Alyosha, vivant au monastère, ne s'était encore lié par aucun vœu. Il pouvait aller où bon lui semblait des journées entières, et s'il portait le froc, c'était volontairement pour ne se distinguer de personne au monastère. Peut-être l'imagination juvénile d'Alyosha avait-elle été très impressionnée par la force et la gloire qui entouraient son staré comme une auréole. À propos du staré Zosime, beaucoup racontaient qu'à force d'accueillir depuis de nombreuses années tous ceux qui venaient épancher leur cœur, avides de ses conseils et de ses consolations, il avait, vers la fin, acquis une grande perspicacité. Au premier coup d'œil jeté sur un inconnu, il devinait pourquoi il était venu, ce qu'il lui fallait, et même ce qui tourmentait sa conscience. Le pénitent était surpris, confondu, parfois même effrayé de se sentir pénétré avant d'avoir proféré une parole. Alyosha avait remarqué que beaucoup de ceux qui venaient pour la première fois s'entretenir en particulier avec le staré entraient chez lui avec crainte et inquiétude. Presque tous en sortaient radieux, et le visage le plus morne s'éclairait de satisfaction. Ce qui le surprenait aussi, c'est que le staré, loin d'être sévère, paraissait même enjoué. Les moines disaient de lui qu'il s'attachait aux plus grands pécheurs et les chérissait en proportion de leurs péchés. Même vers la fin de sa vie, le staré comptait parmi les moines des ennemis et des envieux, mais leur nombre diminuait, bien qu'il comprît des personnalités importantes du couvent, notamment un des plus anciens religieux, grand taciturne et jeûneur extraordinaire. Néanmoins, la grande majorité tenait le parti du staré Zosime, et beaucoup l'aimaient de tout leur cœur. Quelques-uns lui étaient même attachés presque fanatiquement. Cela disait, mais à voix basse, que c'était un saint, et, prévoyant sa fin prochaine, ils attendaient de prompts miracles qui répandraient une grande gloire sur le monastère. Alexei croyait aveuglément à la force miraculeuse du staré, de même qu'il croyait au récit du cercueil projeté hors de l'église. parmi les gens qui amenaient au Staret des enfants ou des parents malades pour qu'ils leur imposât les mains ou dît une prière à leur intention. Alyosha en voyait beaucoup revenir bientôt, parfois le lendemain, pour le remercier à genoux d'avoir guéri leur malade. Y avait-il guérison ou seulement amélioration naturelle de leur état? Alyosha ne se posait même pas la question, car il croyait aveuglément à la force spirituelle de son maître et considérait la gloire de celui-ci comme son propre triomphe. Son cœur battait, son visage rayonnait, surtout lorsque le Staret sortait vers la foule des pèlerins qui l'attendaient aux portes de l'ermitage, gens du peuple venus de tous les points de la Russie pour le voir et recevoir sa bénédiction. Ils se prosternaient devant lui, pleuraient, baisaient ses pieds et la place où il se tenait, en poussant des cris. Les femmes lui tendaient leurs enfants, on amenait des possédés. Le Staret leur parlait, faisait une courte prière, leur donnait sa bénédiction, puis les congédiait. Dans les derniers temps, la maladie l'avait tellement affaibli que c'est à peine s'il pouvait quitter sa cellule, et les pèlerins attendaient parfois sa sortie des journées entières. Alyosha ne se demandait nullement pourquoi il l'aimait tant, pourquoi il se prosternait devant lui avec des larmes d'attendrissement. Il comprenait parfaitement que l'âme résignée du simple peuple russe, ployant sous le travail et le chagrin, mais surtout sous l'injustice et le péché continuel, le sien et celui du monde, ne connaît pas de plus grand besoin, de plus douce consolation que de trouver un sanctuaire ou un saint, de tomber à genoux, de l'adorer. Si le péché, le mensonge, la tentation sont notre partage, il y a pourtant quelque part au monde un être saint et sublime. Il possède la vérité, il la connaît. Donc, elle descendra un jour jusqu'à nous et régnera sur la terre entière, comme il a été promis. Alyosha savait que le peuple sent et même raisonne ainsi, et que le Staret fut précisément ce saint, ce dépositaire de la vérité divine aux yeux du peuple. Il en était persuadé autant que ses paysans et ses femmes malades qui lui tendaient leurs enfants. La conviction que le Staret, après sa mort, procurerait une gloire extraordinaire au monastère régnait dans son âme plus forte peut-être que chez les moines. Depuis quelque temps, son cœur s'échauffait toujours davantage à la flamme d'un profond enthousiasme intérieur. Il n'était nullement troublé en voyant dans le Staret un individu isolé. Peu importe, il a dans son cœur le mystère de la rénovation pour tous, cette puissance qui instaurera enfin la justice sur la terre. Alors tous seront saints, tous s'aimeront les uns les autres. Il n'y aura plus ni riches, ni pauvres, ni élevés, ni humiliés. Tous seront comme les enfants de Dieu, et ce sera l'avènement du règne du Christ. Voilà ce dont rêvait le cœur d'Alyosha. Alyosha avait paru fortement impressionné par l'arrivée de ses deux frères, qu'il ne connaissait pas du tout jusqu'alors. Il s'était lié davantage avec Dmitri, bien que celui-ci fût arrivé plus tard. Quant à Ivan, il s'intéressait beaucoup à lui, mais les deux jeunes gens demeuraient étrangers l'un à l'autre. Et pourtant, 2 mois s'étaient écoulés, pendant lesquels ils se voyaient assez souvent. Alyosha était taciturne. De plus, il paraissait attendre on ne sait quoi, avoir honte de quelque chose. Bien qu'il eût remarqué au début les regards curieux que lui jetait son frère, Ivan cessa bientôt de faire attention à lui. Alyosha en éprouva quelque confusion. Il attribua l'indifférence de son frère à l'inégalité de leur âge et de leur instruction. Mais il avait une autre idée. Le peu d'intérêt que lui témoignait Ivan pouvait provenir d'une cause qu'il ignorait. Celui-ci paraissait absorbé par quelque chose d'important, comme s'il visait à un but très difficile, ce qui eût expliqué sa distraction à son égard. Alexeï se demanda également s'il n'y avait pas là le mépris d'un athée savant pour un pauvre novice. Il ne pouvait s'offenser de ce mépris, s'il existait, mais il attendait avec une vague alarme que lui-même ne s'expliquait pas, le moment où son frère voudrait se rapprocher de lui. Dmitri parlait d'Ivan avec le plus profond respect, d'un ton pénétré. Il raconta à Alyosha les détails de l'affaire importante qui avait étroitement rapproché les deux aînés. L'enthousiasme avec lequel Dmitri parlait d'Ivan impressionnait d'autant plus Alyosha que, comparé à son frère, Dmitri était presque un ignorant. Le contraste de leur personnalité et de leur caractère était si vif qu'on eût difficilement imaginé deux êtres aussi dissemblables. C'est alors qu'eut lieu l'entrevue, ou plutôt la réunion, dans la cellule du Staré, de tous les membres de cette famille mal assortie. Réunion qui exerça une influence extraordinaire sur Alyosha. Le prétexte qui la motiva était en réalité mensonger. Le désaccord entre Dmitri et son père au sujet de l'héritage de sa mère atteignait alors à son comble. Les rapports s'étaient envenimés au point de devenir insupportables. Ce fut Fiodor Pavlovitch qui suggéra, en plaisantant, de se réunir tous dans la cellule du Staré Zosime. Sans recourir à son intervention, on pourrait s'entendre plus décemment, la dignité et la personne du Staré étant capables d'imposer la réconciliation. Dmitri, qui n'avait jamais été chez lui et ne l'avait jamais vu, pensa qu'on voulait l'effrayer de cette façon. Mais comme lui-même se reprochait secrètement maintes sorties fort brusques dans sa querelle avec son père, il accepta le défi. Il faut noter qu'il ne demeurait pas, comme Ivan, chez son père, mais à l'autre bout de la ville. Piotr Alexandrovitch Miusov, qui séjournait alors parmi nous, s'accrocha à cette idée. Libéral à la mode des années 40 et 50, libre penseur et athée, il prit à cette affaire une part extraordinaire, par ennui peut-être, ou pour se divertir. Il lui prit soudain fantaisie de voir le couvent et le saint. Comme son ancien procès avec le monastère durait encore, le litige avait pour objet la délimitation de leurs terres et certains droits de pêche et de coupe. Il s'empressa de profiter de cette occasion, sous le prétexte de s'entendre avec le père abbé, pour terminer cette affaire à l'amiable. Un visiteur animé de si bonnes intentions pouvait être reçu au monastère avec plus d'égards qu'un simple curieux. Ces considérations firent qu'on insista auprès du Staré, qui, depuis quelque temps, ne quittait plus sa cellule, et refusait même, à cause de sa maladie, de recevoir les simples visiteurs. Il donna son consentement, et un jour fut fixé. « Qui m'a chargé de décider entre eux ? » déclara-t-il seulement à Alyosha avec un sourire. À l'annonce de cette réunion, Alyosha se montra très troublé. Si quelqu'un des adversaires aux prises pouvait prendre cette entrevue au sérieux, c'était assurément son frère Dmitri, et lui seul. Les autres viendraient dans des intentions frivoles et peut-être offensantes pour le Staré. Alyosha le comprenait fort bien. Son frère Ivan et Miusov s'y rendraient, poussés par la curiosité, et son père pour faire le bouffon. Tout en gardant le silence, il connaissait à fond le personnage, car, je le répète, ce garçon n'était pas aussi naïf que tous le croyaient. Il attendait avec anxiété le jour fixé. Sans doute, il avait fort à cœur de voir cesser enfin le désaccord dans sa famille, mais il se préoccupait surtout du Staré. Il tremblait pour lui, pour sa gloire, redoutant les offenses, particulièrement les fines railleries de Miusov et les réticences de l'érudit Ivan. Il voulait même tenter de prévenir le Staré, de lui parler au sujet de ses visiteurs éventuels, mais il réfléchit et se tut. À la veille du jour fixé, il fit dire à Dmitri qu'il l'aimait beaucoup et attendait de lui l'exécution de sa promesse. Dmitri, qui chercha en vain à se souvenir d'avoir promis quelque chose, lui répondit par lettre qu'il ferait tout pour éviter une bassesse. Quoique plein de respect pour le Staré et pour Ivan, il voyait là un piège ou une indigne comédie. Cependant, j'avalerai plutôt ma langue que de manquer de respect au saint homme que tu vénères, disait Dmitri en terminant sa lettre. Alyosha n'en fut guère réconforté.